Je suis présentement avec M. Sylvain Chicoine, qui est le candidat de Châteauguay-Lacolle pour le Nouveau Parti démocratique. Vous allez bien, M. Chicoine?
Très bien, merci vous-même.
Oui, super bien, merci de le demander. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours dans la politique?
Ah oui, bien sûr. Ben, je suis membre du NPD depuis 2004, lors de l'arrivée à la direction de Jack Layton. C'est un bonhomme qui m'avait déjà séduit à l'époque, donc je m'étais mis membre je milite au départ très peu, à l'effet que j'avais de très, très jeunes enfants, donc ça me laissait peu de temps. Mais en 2011, j'avais déjà décidé de faire le saut d'être le représentant du NPD pour Châteauguay-Saint-Constant. Au départ, évidemment, on croyait pas beaucoup à nos chances. Moi, j'étais confiant pour l'avenir, mais de sauter d'un député à 59 à l'époque, je trouvais que c'était un gros saut. Donc, comme la plupart des gens, je ne m'attendais pas à une si grosse vague à cette époque-là. Mais quand même, j'étais le candidat 2011. J'avais accepté de représenter le comté ici. J'ai gagné mes élections en 2011 pour le comté de Châteauguay-Saint-Constant. Pour cette campagne-ci, qui est pour les élections qui vont avoir lieu le 19 octobre, bien, j'ai décidé de solliciter un second mandat, mais par contre, ça va être pour la circonscription de Châteauguay-Lacolle, parce qu'effectivement, les circonscriptions ont été redessinées. C'est une loi électorale à tous les 10 ans, donc on était dû pour une refonte des comtés. Et puis, le comté va être plus agricole cette fois, milieu urbain pour le trois quarts, là, avec Châteauguay, Mercier, Léry. Puis une partie un peu plus agricole avec Saint-Isidore, Saint-Rémy et puis tout ce qui suit jusqu'à la frontière à Lacolle.
Parfait, parfait, excellent. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des plans du NPD au niveau fédéral? C'est quoi qu'ils veulent apporter comme projet si jamais ils sont élus?
Oui, bien, évidemment, la priorité des Canadiens, je pense, c'est de remplacer Stephen Harper à la tête du pays. Je pense que après trois mandats comme ça, là, je pense que les Canadiens en ont assez des politiques très à droite du premier ministre. Donc, on a une équipe et un chef qui est les plus expérimentés et les plus solides, là, qui pourra et la mieux placée là, pour remplacer Stephen Harper. On a évidemment plusieurs idées. On veut améliorer les soins de santé, l'accès aux soins de santé. On a un programme de garderie également à 15 $ par jour. Ces deux enjeux, évidemment, de compétences provinciales. J'aimerais le rappeler, le NPD va toujours respecter les compétences du Québec. Ça se résume en 5 mots dans notre déclaration de Sherbrooke. C'est droit de retrait avec pleine compensation. Donc, toutes les sommes qu'on va mettre en santé, en garderie, eh bien, le Québec pourra évidemment se retirer de ces programmes-là pour utiliser les sommes comme bon lui semble. Donc, pour l'améliorer des soins de santé, évidemment, le gouvernement actuel a réduit de 2016 à les années suivantes les montants en santé. Ils ont été réduits. Il y avait un 6-7 % par année d'augmentation chaque année depuis 10 ans. Et puis, le premier ministre, sans aucune, de façon unilatérale, sans discuter avec ses partenaires provinciaux, a décidé de couper un peu dans les transferts pour les limiter l'augmentation à autour de 3 % selon la santé de l'économie. Donc, on trouve ça un peu inacceptable. Il faut ramener, puisque évidemment la population vieillit, les besoins en santé des provinces explosent. Donc, c'est pas le temps de couper là-dedans. Donc, on va améliorer sensiblement plusieurs milliards de plus en santé pour aider les provinces à engager plus de médecins, à bâtir plus de cliniques. Et tel que je le mentionnais, au Québec, pleine compensation, droit de retrait. Donc, les sommes vont être transférées uniquement à la province pour les aider à faire face à cette augmentation des coûts.
Vous avez également un plan pour construire, je crois que c'est 200 nouvelles cliniques à travers le Canada, dans les régions un peu plus éloignées, si je ne me trompe pas.
Oui, bien, c'est un plan, je crois que c'était un peu plus, j'ai une mémoire affreuse des chiffres, mais il me semble que c'était un petit peu plus de cliniques. Là. Il y avait un 300 millions pour... 200 cliniques qui étaient pour, pour la construction de 200 nouvelles cliniques. Tel que je le mentionnais, c'est à peu près un quart, peut-être 40 au Québec ou quoi que ce soit, mais en même temps, bien, c'est un champ de compétences provinciales. On respecte ce champ de compétences. Donc, les sommes transférées à la province et puis ils les construiront s'ils le veulent bien, mais s'ils décident de consolider plutôt les places, bien, écoutons, ils sont le mieux placés de toute façon pour savoir le besoin et savoir où sont les besoins de nouveaux médecins, etc. Donc, ces sommes-là sont utilisées par le gouvernement du Québec pour améliorer l'accès aux soins de santé, mais comme bon le Donc, c'est important. Mais évidemment, il y a d'autres provinces qui sont moins, chatouilleuses là-dessus. Ils acceptent plus facilement les interventions du fédéral dans les champs de compétences. Donc, pour eux, là, ça sera de s'entendre avec les autres provinces à l'extérieur du Québec comment faire pour construire ces nouvelles cliniques. Mais ici, comme je le répète, là, c'est important, c'est un champ de compétences du Québec et le gouvernement pourra utiliser les sommes pour construire ces cliniques ou pour consolider des places ailleurs.
Améliorer l'accès, dans le fond.
Améliorer l'accès, effectivement, comme je le mentionnais, là, le fédéral, jusqu'à il y a une trentaine d'années, là, assumait 50 % des frais des coûts de santé. Avec le temps, ça s'est retiré. Et puis, tel que je le mentionnais, bien là, il y a des défis extrêmement importants pour les provinces à l'effet que la population vieillit. Et puis, il faut c'est pas le temps de couper les transferts. C'est, au contraire, il faut les améliorer donc les augmenter. Donc, il faut tendre à revenir à une augmentation de 6 % ou 7 % des transferts en soins de santé aux provinces. Et puis, on s'engage à retourner vers ça éventuellement.
OK, parfait, parfait.
Et puis, on a un autre programme aussi. On a un beau programme ici. Il y a l'accès aux soins de santé, aux médicaments. Évidemment, on veut aussi, on a au Québec, un petit peu plus progressiste. De toute façon, on a tous ces programmes-là, programmes de garderie, programmes d'assurance médicaments. Mais on veut utiliser, étendre un accès universel d'assurance médicaments à tout le pays. Ça va nécessiter aussi un milliard et plus là, par année. Et puis, on peut aider à couper les soins, plutôt les coûts en médicaments. On paye un peu trop cher, puis en utilisant, évidemment, en collaboration avec les provinces, un pouvoir d'achat unique, d'augmenter, ça peut aider à couper de 30 % les coûts des médicaments. Donc, on veut s'assurer, on veut travailler avec les provinces pour étendre un programme d'assurance médicaments à tout le pays et d'utiliser le pouvoir d'achat commun pour faire diminuer les coûts des médicaments qui est trop élevé selon la plupart des observateurs. Donc, c'est un peu les engagements. Puis évidemment, les garderies aussi, on veut investir un milliard par année à terme là, pour créer des places en garderie. Et puis, les sommes seront transférées évidemment aussi aux sommes au gouvernement du Québec qui pourra utiliser les sommes comme on le semble, peut-être pour augmenter. Il manque quelques places quand même pour donner un accès à tous les enfants au Québec. Mais le gouvernement pourra l'utiliser comme bon lui semble pour créer de nouvelles places ou pour consolider le taux de 8 $ par enfant, donc par jour. Donc, le gouvernement pourra utiliser ces sommes-là aussi pour ce programme de garderie étendu à l'ensemble du Canada.
OK, excellent, excellent. Moi, j'ai quelques petites questions. On entend beaucoup parler de l'immigration au sein de la campagne électorale. Là, c'est quoi la position du NPD là-dessus, sur l'immigration au Canada?
Oui. Bien, évidemment, ces temps-ci, on a la crise syrienne là, qui a fait en sorte que démontrer là, que les pays, là, c'était pas juste au Canada, mais c'était un petit peu, il y avait une indifférence un peu totale face à cette crise des migrants syriens qui savent plus où aller, que plusieurs pays ferment leurs frontières. Donc, on trouve c'est cette photo là, du petit garçon qui était retrouvé mort sur la plage a fait ouvrir les yeux de la planète entière, puis les yeux se sont tournés vers le Canada, puis ce qu'on fait ici, c'était pas les pays, mais reste qu'on n'était certainement pas les plus accueillants envers les migrants syriens ou les migrants à travers la planète. Donc, cette crise, il faut aider à ouvrir nos frontières pour accueillir plus de réfugiés. Le NPD s'est engagé à accueillir 10 000 réfugiés syriens immédiatement. Avant la fin de l'année, avant la fin 2015, et puis d'augmenter aussi là, l'accessibilité pour les deux ou trois prochaines années, parce que c'est un conflit, malheureusement, qui va encore s'étendre sur plusieurs années. Les attaques aériennes de la coalition internationale n'ont pas l'effet escompté, dans le sens où le groupe armé État-islamique continue à avancer malgré cette répression internationale. Donc, c'est une crise qui va s'étendre sur plusieurs années encore. Donc, on s'engage à accueillir plus de
aider
plus de migrants syriens, plus de réfugiés. Mm-hmm. Oui, c'est sûr, il faut augmenter. Et puis, l'améliorer aussi l'aide internationale sur place. C'est certain que ce serait mieux de garder sur place, pas loin, qu'ils puissent retourner dans leur pays après. Mais reste que c'est pas la réalité immédiate. Mm-hmm. Et puis, pour les prochaines années aussi, là, ça va être une crise qui va perdurer dans le temps. Donc, il faut faire notre part. Au niveau international, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le premier ministre a démontré un peu une insensibilité face à ce dossier-là. C'est un peu déplorable. Bon, il a changé un peu d'idée là, la semaine suivante, mais ça a pris énormément de temps avant qu'il démontre une ouverture. Donc, c'est un peu déplorable. Donc, nous, on veut en accueillir un peu plus que ce que fait le gouvernement actuel.
OK, parfait, excellent. Là, vous avez des beaux plans aussi pour promouvoir le tourisme au Canada. Donc...
Oui, bien, c'est des sommes qui étaient investies à l'époque. Là. Il y avait toujours des sommes investies pour promouvoir le tourisme, surtout pour les Américains. À l'époque, il y a une dizaine d'années, on favorisait un taux de change favorable. Mm-hmm. Donc, les Américains venaient un peu plus. Mais lors des 5 dernières années, avec un dollar qui frisait la parité, il y a 2-3 ans encore, ou il y a même moins longtemps que ça, reste que les Américains venaient beaucoup moins. Donc, il serait extrêmement important, même avec la baisse récente, on voit qu'il y a une augmentation du tourisme, mais ce n'est pas encore ce que ça doit être. Donc, évidemment, on s'engage à investir là, quelques millions par année, là, plus de 5 millions pour promouvoir le tourisme aux États-Unis, pour attirer les Américains. On pense que c'est un secteur économique là, qui est sous-développé à l'effet que, comme je le mentionnais, là, on a un dollar à 75 sous face au dollar américain. Ça devrait être favorable, mais il reste que cette baisse n'a pas attiré les touristes de façon d'aussi... de façon escomptée. Donc, c'est un secteur économique là, qui est sous-développé. Puis je pense qu'avec à promouvoir le tourisme du Canada, nos grands espaces, nos sites exceptionnels, bien, je pense qu'on pourrait, ces 5 millions auraient des tombées économiques beaucoup plus larges que cet investissement, parce que le tourisme américain ne revient pas encore en sol canadien et en sol québécois. Donc, on veut investir des sommes, repartir ce programme pour attirer les touristes américains. Donc, on va mettre quelques sous pour attirer. Puis, évidemment, la région pourrait... On a des sites exceptionnels, musée Expo Rail à Saint-Constant, ainsi qu'ici, on a l'île Saint-Bernard, qui est un site exceptionnel. Donc, on pourrait facilement là, attirer... où ces sommes pourraient permettre là, de mettre en œuvre nos joyaux touristiques dans la région pour attirer le tourisme américain.
Et ça stimulerait l'économie également. Là, ça créerait des emplois au travers du Canada.
Bien, tout à fait. On pourrait maintenir et augmenter des emplois à travers le Canada. C'est des, c'est des sommes qui rapportent beaucoup plus que le peu qui vont être investis. Le gouvernement conservateur, lorsqu'il aurait dû augmenter, a coupé au lieu d'augmenter, puisque c'était plus difficile pour le touriste américain de venir au cours des 6-7 dernières années, lorsque le dollar commençait à s'envoler et à atteindre la parité là, pendant plusieurs mois, quelques années. Donc, il faut réattirer ce tourisme-là. Il faut aider l'industrie touristique à attirer ces touristes américains qui ne demandent pas mieux, à mon sens, là, que de se laisser courtiser là, pour venir dépenser en sol canadien.
Excellent, excellent. Puis là, dans la région de Châteauguay-Lacolle, en tant que telle, est-ce que vous avez des projets concrets pour la région?
Bien, oui, absolument. Je suis en train, évidemment, puisque le territoire a changé, il va être beaucoup plus agricole. Il y a énormément de producteurs de lait sur le comté qui sont très, mais très, très, très inquiets face aux discussions concernant l'accord économique transpacifique. Le gouvernement conservateur et même certains députés là, ont déjà dit que le système de gestion de l'offre était archaïque, qu'il fallait abolir ça. Donc, ils sont très, très inquiets à plusieurs questions lors des dernières semaines là, de travaux parlementaires. Le premier ministre a refusé de dire qu'il maintiendrait telle quelle la gestion de l'offre, alors qu'il y a déjà eu des brèches avec l'accord européen également. On laisse presque 20 millions de tonnes supplémentaires de fromage fin, ce qui ne rentrait pas. Donc, on commence à avoir des brèches comme ça. Et puis, j'ai rencontré plusieurs... plusieurs fermiers, plusieurs producteurs agricoles qui ont du lait me disent que depuis quelques mois, ils obtiennent beaucoup moins lectolitres qu'avant, si bien qu'ils ont des pertes de 3, 4, 5 000 selon le nombre de vaches qu'ils exploitent. Okay. Donc, ils roulent à perte présentement, notamment à cause que ceux-ci mentionnent là, qu'il y a des brèches dans la gestion de l'offre. Depuis quelques années, là, puis ça s'intensifie dans les derniers mois. Il y a des camions, des citernes de lait qui proviennent de la frontière des États-Unis, pas tellement loin, des fermes laitières qui font une espèce de dumping dans la région. Ils exportent ici au Canada des tonnes de lait là, légèrement transformé, si bien qu'on n'a pas le droit là, d'importer là, de lait tel quel au Canada. Mais reste que ceux-ci le transforment légèrement. Les producteurs ici le reçoivent du lait des États-Unis à faible coût, comme je le disais, à moitié du coût que ça vaut réellement. Et puis, pour transformer, faire du fromage et autres produits laitiers, et si bien que les producteurs, présentement, là, sont plus qu'inquiets. Ils subissent des pertes présentement, donc ils ne pourront pas continuer comme ça bien longtemps. Il va falloir protéger ce système de gestion de l'offre. Nous, on s'engage à le protéger. Puis moi, je m'engage à regarder là, ce qui se fait là, dans l'importation de ce lait là, des États-Unis qui est légèrement transformé. Là, c'est des brèches peut-être dans ce système-là qu'il va falloir regarder de très, très près là, parce que ceux-ci, là, plusieurs me mentionnaient qu'ils ne pourront pas continuer un an encore à rouler à perte ou même quelques mois. Et il y a beaucoup de fermes encore qui vont fermer. Il y en a plusieurs qui ont fermé dans les dernières années. On assiste à des achats de multinationales étrangères, des terres ici agricoles. Et puis, il faut voir à protéger nos terres, que ce soit nos terres, nos fermes familiales, parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis, ceux-ci le produisent, produisent nos produits de tous les jours. Donc, il faut voir à ça.
OK, parfait. Donc, vous voulez vraiment aider les producteurs locaux?
Absolument, absolument. Et autant les producteurs maraîchers, il y en a qui ont des problèmes également à faire venir les travailleurs étrangers temporaires. Il y a plusieurs choses là, qui méritent, qu'on doit regarder plus près parce que plusieurs de ceux-ci, là, depuis un an, là, ont des pressions énormes et on va avoir de la difficulté à arriver là, dans les prochaines années, autant pour engager les travailleurs étrangers temporaires. Le système a été resserré, mais en même temps, ceux-ci ont de la difficulté à garder leur main-d'œuvre. Donc, il y a énormément de travail à faire pour nos producteurs maraîchers, pour nos producteurs agricoles. Donc, je m'engage à regarder ça de très près pour travailler de concert avec ceux-ci pour améliorer leur situation.
Parfait, excellent. Donc, il nous reste juste environ deux petites minutes, mais est-ce qu'il y avait d'autres projets que vous vouliez nous parler dans la région de Châteauguay en tant que telle, vite?
Oui, bien, aussi, il y a des frontières, telles que je mentionnais avant. Il y en a qui seraient un peu poreuses. Certains, j'ai eu quelques messages. Je suis en train de regarder là, tout le long de la frontière, tout près de la colle. Là, il y a plusieurs frontières pas tellement surveillées. Donc, on devrait peut-être regarder à améliorer cette situation-là. Il y a également plusieurs aussi municipalités qui me disent, le transport ferroviaire, il y a des produits dangereux qui transitent dans les municipalités, puis ceux-ci veulent savoir pour organiser les services d'urgence, qu'est-ce qui passe sur leur rail, et puis ils n'ont aucune information ou l'information est obtenue à la fin de l'année seulement, mais ceux-ci, c'est important pour eux qu'ils sachent en temps réel ce qui se passe, ce qui passe sur leur rail, parce que s'il y a un déversement de produits dangereux, un accident ferroviaire, bien, ils veulent pouvoir organiser, avec raison, là, ils veulent pouvoir organiser les services d'urgence en conséquence, et puis c'est important pour eux de connaître ce qui transite sur nos rails, et c'est présentement pas le cas. Le CN et le CP est extrêmement opaque avec ces informations-là. Et puis la sécurité ferroviaire également, elle a été améliorée un peu, mais reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et puis j'aimerais pouvoir participer également à cet enjeu-là, à améliorer la sécurité sur nos rails. Donc c'est un des enjeux aussi qui touche les citoyens du comté.
Excellent, excellent. Mais je vous remercie beaucoup, M. Chicoine, pour votre entretien aujourd'hui.
C'est un grand plaisir.
Puis je vous souhaite une excellente journée, puis une bonne campagne électorale. Hein, ça arrive bientôt, les élections.
Absolument.
Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Au plaisir.